penser l'avenir au secours du présent.
Le beau est toujours bizarre.
Non, je n'y crois pas.
Rien ne distingue les souvenirs des autres moments.
Le bizarre est souvent beau.
C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau.
Le beau bizarre.
Non, oui, pour moi, oui.
De Zineb Souleymani.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore qui se veut ouvert sur l'étrange, le dérangeant, le marginal et l'indomptable. Parce qu'à y regarder de près, le bizarre est souvent beau. Je suis Zineb Souleymani et dans ce premier numéro du Beau Bizarre, nous allons approcher la figure de la sorcière. Hameçon du diable, tison d'enfer, laidron à nez crochu, chaudron, manche à balai, sortilège, beauté vénéneuse, maléfice et démon au coin du bois, l'imaginaire collectif regorge de motifs stéréotypés lorsque l'on évoque les sorcières. Mais avant de devenir ce personnage canonique de fiction, un mythe et des personnages phares de la pop culture, les sorcières s'inscrivaient dans la réalité et leur chasse était bien réelle. Et il existe depuis toujours une peur des femmes savantes, notamment des femmes âgées, isolées, indépendantes, qui vivaient seules et soignaient le voisinage. Qui étaient les sorcières? Qui sont les sorcières d'aujourd'hui? De terribles femmes maléfiques? Des résistantes ouvrant des espaces pour que l'air y soit plus respirable? Féministes pour sûr, souterraines parfois et singulières dans leur démarche.
La sorcière, c'est la rebelle, disait c'est la rebelle belle et savante. Cette sorcière sur son balai, c'était juste un détournement de son outil de travail et qu'elle ne se pliait à aucune loi, y compris les lois de la pesanteur, donc elle s'envole.
Pour cette émission, nous partons à Poitiers pour le Festival Accor, un festival de danse contemporaine organisé par le TAP, Théâtre et Auditorium de Poitiers. Nous y serons avec Thomas Ferrand et Annabelle Guéredra, qui, dans un savant mélange de nécessité et de génie de la programmation, convoque tour à tour la figure de la sorcière. Montparnasse TGV, 1h30 de Paris, en direction de Bordeaux. Le théâtre est déjà visible depuis la gare. Deux cubes jaunes qui contrastent avec un ciel radieux. Je me sens très privilégiée et reconnaissante de pouvoir assister par les temps qui courent à un programme réjouissant pendant les 3 jours que va durer le festival cette année. Au menu, Thomas Ferrand, metteur en scène qui a eu besoin de s'éloigner de la scène pour se rapprocher du sauvage. Botaniste, il revient à la scène et s'engage avec un groupe d'étudiants de l'université de Poitiers dans un travail autour du vivant. Le vivant non humain, non domestiqué, délaissé et traité souvent de mauvaises herbes, d'herbes en trop, des herbes invasives souvent à éliminer. Comment recréer un dialogue avec ces vivants non humains? Comment établir un lien diplomatique avec le vivant spontané? Comment trouver des alliances entre l'humain et le non humain? Un extrait de Rance, fruit de ce travail, pour appréhender cette recherche. Et puis nous ferons connaissance avec la performeuse Annabelle Guéredra, venue tout droit de la Martinique, puissante sorcière afro-caraïbienne, habitée par plusieurs figures de sorcières contemporaines. Elsa Dorlin, Nina Hagen, Princesse Nokia, toutes et d'autres habitent les tableaux qu'elle déploie dans sa performance Amabrucha. Mais d'abord, l'histoire.
Quand le père du père de mon père avait une chose importante à accomplir, il allait dans un endroit précis dans la forêt. Il allumait un feu et il récitait une prière. Et ce qu'il avait à accomplir s'accomplissait. Quand ce fut au tour du père de mon père d'avoir une chose à accomplir, ce dernier avait oublié l'endroit précis dans la forêt. Mais il savait encore allumer le feu, et il connaissait encore la prière. Et ce qu'il avait à accomplir s'accomplissait. Quand ce fut au tour de mon père d'avoir une chose importante à accomplir, il ne connaissait pas l'endroit précis dans la forêt. Il ne savait pas allumer le feu. Mais il connaissait encore la prière. Et cela fut suffisant. Quant à moi, je ne sais pas créer le feu. Et je ne connais ni l'endroit précis dans la forêt, ni la prière. Mais je peux encore raconter l'histoire.
Bienvenido al TAP, Théâtre et Auditorium de Poitiers. Pour les besoins de la pièce, je vais vous demander de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. The show requires your assistance. Please turn your mobile phone off. Esta pieza necesita vuestra colaboración. Les pedimos que, por favor, cancelen sus teléfonos móviles. Merci et bon spectacle. Thank you and enjoy the show. Gracias et disfruten del show.
C'est précisément ça qui nous intéresse. Pourquoi un ballet ? En fait, les sorcières fabriquaient des pommades avec la datura qu'elles appliquaient sur un manche à ballet, par exemple, pour se frotter la vulve avec. Oui, pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, parce que la vulve est une zone érogène, très sensible, très irriguée par le sang. Très vite, si vous vous frottez le sexe avec une pommade datura, les propriétés hallucinogènes vont faire leur effet. Voilà pourquoi on représente les sorcières s'envolant sur un balai. Allez hop, au septième ciel!
Ma pratique du spectacle passait déjà par quelque chose de cette expérience-là. Je parle souvent de mes spectacles comme des poèmes scéniques. Mais en fait, ce sont des expériences où s'entrechoquent des matières. Et pour moi, c'est une question de travailler le temps. Et quelque part, travailler le temps, c'est quelque chose qui a à voir avec la sorcellerie. Et c'est vrai qu'après tout ce qui s'est passé pour moi avec les plantes a directement un lien quand même avec cette expérience-là. Parce que être dans les bois, c'est aussi une autre manière de diluer le temps. Et parler avec les plantes, parce qu'il s'agit quand même d'une vraie communication, c'est une manière d'être sorcier, oui. Mais je le dirai pas comme ça, c'est trop tard, je l'ai dit.
Bruja, qu'est-ce que ça veut dire ce titre ?
Alors, I'm a bruja, ça veut dire je suis une sorcière, donc c'est vrai que c'est une affirmation. C'est un mélange donc I'm et a bruja d'anglais et d'espagnol, et qui est le refrain d'une chanson de Princesse Nokia qui s'appelle Brujas, où elle dit I'm a bruja, et voilà, donc c'est aussi l'affirmative de voilà, je suis une sorcière, donc je me positionne comme sorcière. Et qui peut-être invite aussi à se demander pour le spectateur, et toi tu es qui ? Si moi je te dis que je suis une sorcière, toi tu es qui quand tu me regardes, ou quand, enfin voilà, comment après l'échange ou la relation peut s'installer, parce que c'est vrai que là le Festival Accor, c'est aussi un contexte d'échange et de rencontre, et ça c'était intéressant pour moi de voir que finalement dans plusieurs des pièces que j'ai pu aussi voir, on traite de la thématique de la sorcière, mais sous des angles différents. Et du coup, je trouvais que I'm a bruja avait toute sa place et sa légitimité, ce qui est une vraie question. Mon point de vue situé, il est vraiment de la Caraïbe. Et donc, je pars vraiment d'une sorcière qui va donner à voir, restituer au monde et donner à voir un rituel qui se situe plus dans la région afro-caribéenne qu'en Europe, dans l'Occident médiéval ou l'Occident chrétien, par exemple, au 11e, 12e siècle, où on brûlait les sorcières. Moi, je ne me situe pas du tout dans cette sorcière-là. Une sorcière moderne, c'est une femme émancipée avant tout, qui s'émancipe et qui veut pas justement obéir à ce qu'on voudrait que soit une femme dans une société bien pensante, patriarcale, hétérosexuelle, normée, du coup raciste et anti-érotique et plutôt sexiste. Donc là, la Bloura, elle repousse tout ça violemment et elle s'affirme dans toute sa complexité, mais aussi dans sa nudité. Et moi, ce que je trouvais aussi intéressant par rapport à ce festival, c'est que du coup, j'ai la sensation de me situer aussi en tant que sorcière racisée. C'est-à-dire, je vois bien que quand on parle de sorcière du temps médiéval en Occident chrétien, c'est une sorcière blanche, en fait. Donc, c'était important, je pense aussi, de donner à voir une figure métisse ou noire, en tout cas racisée, qui du coup va effectivement pas aborder le sujet sous le même angle. Et là, moi, j'invite le public à une initiation, à assister à un rituel final, mais qui passe par plusieurs étapes pour pouvoir arriver à ce rituel final du care, du soin.
7 ans plus tard, mai 2017, New York, les sorcières sont partout. Je marche dans la rue, les plumes au vent. Les sorcières ne sont pas forcément folles. Elles ont tout simplement envie de ne pas vivre sous la coupe d'un homme. Elles veulent mener une vie qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'une femme. Elles veulent prendre leur destin en main. Août 2017, Paris. La sorcière Crump rencontre Elsa, se défend. C'est se défendre, une philosophie de la violence. La phénoménologie du muscle avec le Crump. Se nommer sorcière, c'est orienter son désordre initial vers une forme et aussi un espace de partage. C'est danser la sorcière. La seule manière pour être dans le vivant, dans la transformation.
Et donc c'est sûr que chaque tableau défini représente une sorcière dont je vais m'accaparer le pouvoir pour pouvoir ensuite m'en puissancer. Puis après, je me suis quand même posé la question parce que le fait de l'avoir joué 4 fois de suite ici, du coup, je dormais avec, je me douchais avec, je mangeais pas avec, etc. Enfin, moi, j'étais vraiment imprégnée dans cette peau de Bloura. Et je me suis demandé si quelque part, je relatais pas aussi un peu ma vie, c'est-à-dire cette partie des années 80, 90, 2000, où je suis un peu comme une femme errante, faisant le choix de vivre entre Paris et Montpellier. Donc, ça serait un peu la Nina Hagen. Et à un moment donné, il y a une rupture. Donc, les années 2010-2013, où je fais le choix de rentrer vivre en Martinique et de partir à la rencontre d'hommes et de femmes médecine, d'où cette quête de vision aussi que j'ai pu réaliser dans la forêt, 5 jours sans boire, sans manger, accompagnée par la abuela Margarita, qui était une femme médecine autochtone du Mexique. Et ça correspond au parterre de bougies, par exemple, à la deuxième Bloura. Et puis après, il y a toute cette initiation au Crump, mais aussi l'affirmation d'une amitié avec Elsa Dorlin, etc. Donc ça, c'est ce retour à Paris, mais tout en étant... justement en n'étant absolument pas nostalgique de Paris et surtout en me disant j'ai fait le bon choix d'être rentrée vivre en Martinique. Ça, c'est des choses dont on a beaucoup discuté avec Elsa et qui du coup me disait mais Annabelle, est-ce que tu pratiques le ladja, le dormier, est-ce que tu pratiques ces danses de combat qui appartiennent aussi au territoire Martinique et il a fallu Elsa pour que justement je puisse me dire, mais oui, elle a raison, il faut vraiment que je m'en imprègne. Certes, il y a le crump, mais il y a aussi le dormier. Et c'est important que je sache me défendre aussi, si je suis attaquée dans la rue ou quoi. Enfin, voilà, que ça participe aussi d'une forme de féminisme, de militantisme, et plus artistique, mais aussi dans la vie de tous les jours.
Hans-Fee! Gala! 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 Stop!
Et après, une fois cette phase initiatique du Crump, etc., c'est l'arrivée de la sorcière à fluo qui, à un moment donné, prend le masque de maman Brigitte, en fait, hein, de la femme de Baron Samedi, pour pouvoir justement permettre que le rituel ait lieu. Et ça, je pense que c'est tous ces bains des marais, tous ces rituels que j'ai pu enfin m'autoriser une fois rentrée chez moi, que ce soit à la rivière, à la mer, que ce soit dans le cadre d'un laboratoire d'art performance, que ce soit un vrai rituel, un ébo, puisque j'ai eu une initiation avec des babalao à Cuba à la cérémonie à Orula. Et donc, du coup, je connais mon signe, je connais mon orisha de tête, etc. Donc, je connais mes prières, je sais qui je dois invoquer. Et ça, du coup, c'est aussi un peu dans le parcours de la quatrième et jusqu'à la cinquième bourra, la bourra finale qui est maman de l'eau, qui est la bourra qui accueille, en fait, qui à la fois est dans le soin et en même temps qui accueille une certaine forme de vie, en fait. Et je pense que ça correspond peut-être aussi à ce désir d'enfant que j'ai pu traverser aussi, que j'ai eu de manière très très forte, ce désir de maternité. Parce qu'il y a toute la question de la sorcière. Souvent, on disait aussi que les sorcières avaient un utérus hanté parce que justement, il n'avait pas été... la sorcière n'enfante pas a priori, et donc cet utérus toujours vide, et que du coup c'est ça aussi qui faisait qu'elle avait des pouvoirs. Moi, je pense qu'on peut être sorcière maman et avoir encore plus de pouvoir, justement, et que voilà, l'enfantement et la maternité, ça fait aussi partie de la bruja. Donc voilà, je pense que c'est à la fois un parcours intime et en même temps qui peut relater des figures inspirantes, ou alors des... Voilà, faire référence à, comme j'ai parlé d'Elsa Dorlin, de Nina Hagen, Princesse Nokia, et jusqu'à une figure un peu plus déifiée, on va dire, plus déique, plus de déesse, comme Yemaya au moment de l'eau.
Justement, peut-être ce serait intéressant, ce serait peut-être le moment de revenir sur votre parcours. Vous avez eu un parcours très académique. À un moment donné, vous avez eu besoin de vous défaire de toutes ces couches qui se sont posées au fur et à mesure que vous faisiez à la fois vos études, vos classes d'apprentissage, et en même temps que votre identité se composait, tout en laissant peut-être de côté la racine ou l'origine. Pourquoi il y a eu ce besoin de revenir à la source et se défaire? À un moment donné, dans le spectacle, vous dites décoloniser les corps, décoloniser les esprits, décoloniser un peu nos mémoires, peut-être aussi dans le corps. Comment ce travail-là, il est arrivé, et le besoin urgent peut-être de le faire?
Ben, c'est vrai que il y a eu, ça me fait penser au livre de Louise Bourgeois qui m'avait pas mal troublée, justement, où elle parle de la déconstruction du père. Et je pense qu'il a fallu effectivement pour moi être dans une forme de déconstruction. Donc ça a commencé par la psychanalyse, mais à un moment donné, il fallait l'arrêter, cette psychanalyse, et que ça continue dans mon métier de danseuse, de chorégraphe. Aussi parce que mon corps a été traversé par plein de techniques différentes, et qu'à un moment donné, il a fallu, quand j'ai rencontré Anna Alprin, elle m'a dit « Non, mais là, t'as suffisamment été traversé par suffisamment de techniques. Maintenant, c'est quoi ta danse? Qui es-tu et c'est quoi ta danse ?» C'est-à-dire que tu peux pas continuer à danser Cunningham, à danser Mark Tompkins, à danser Valeska Guerre. C'est quoi ta danse profondément? Et c'est quoi ton échauffement, et c'est quoi ta propre technique? Est-ce que tu peux inventer ta technique plutôt que de tout le temps aller t'approprier les techniques des autres, comme si toi, tu n'avais pas la capacité à créer ta propre technique? Et ça, j'ai trouvé ça super fort, parce que pour moi, c'était une grosse claque, parce que j'avais l'impression d'être toujours en apprentissage, et comme si c'était jamais suffisant. Il fallait toujours que j'apprenne. La première rupture, elle a été avec mon maître de buto japonais, Sumako Koseki, où à un moment donné, j'en avais marre d'être dans ce rapport maître-élève et dans ce rapport de soumission qui est très lié à la culture japonaise et de toute façon à la transmission du buto, qui est une danse des origines très archaïque, mais aussi très avec énormément de discipline et qui est vraiment liée sur ce rapport maître-élève, de soumission, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je ne suis pas japonaise, déjà, je suis caribéenne. Donc, il faut que j'arrête ça aussi de vouloir m'imprégner des cultures des autres, mais elle est où ma propre culture ? Et après, quand je rencontre Anna Halperin et qu'elle me dit, mais ta culture est... Enfin, quand je lui montre un autoportrait, elle me dit « Wow, you've got a very, very strong culture. » Je dis « Yes, I come from French Caribbean Island. » Et là, elle me répond « This is not this culture. I don't think... » Voilà, je ne sais pas de cette culture-là dont je te parle. C'est autre chose, c'est une autre culture. Et ça, ça m'a vraiment posé question parce que je me suis dit « Est-ce qu'elle parle de ma lignée généalogique intergénérationnelle juive ashkénaze russe de ma mère ?» est-ce qu'elle me parle alors que moi je suis en train de me réclamer ses origines africaines, afro-caribéennes, etc. Est-ce qu'elle parle de ça ? Est-ce qu'elle parle de, plutôt d'une forme de spiritualité englobante que j'ai aussi du fait d'avoir beaucoup pratiqué le bouddhisme, le zen, via le buto ? Mais après, de m'être beaucoup intéressée, bah, forcément, à la Kabbale, de par ses origines, de par mon arrière-grand-mère et grand-mère, etc. Juive ashkénaze de Russie. Et puis après, en même temps, j'étais très, très, très attirée par l'islam. En commençant à aller voir des quimboiseurs, je me suis rendue compte qu'eux-mêmes, ils mélangeaient du petit Albert, du grand Albert, de la Bible. Donc, du coup, je me suis intéressée à la Bible. Enfin, de m'apercevoir que j'étais face, que moi-même, c'était important de m'autoriser, et c'est là qu'a démarré le processus décolonial, ce syncrétisme magico-religieux, de faire confiance à ce syncrétisme, donc de me dire non, il faut vraiment que je me réapproprie tout ce qui me constitue cellulairement au niveau de la mémoire, ces complexités, ces couches qui me constituent, qui sont hyper complexes en fait, pour peut-être me rapprocher un peu plus de l'humain en fait, c'est-à-dire d'être encore un peu plus touchée, accéder à un plus d'humanité, toujours un peu plus. Je pense que c'est un peu ma quête, en fait. Donc, la Bloura, elle est là pour soigner savoir se défendre. Elle propose aussi à d'autres femmes de se soigner, de se défendre. Je pense que j'ai été très touchée aussi quand je suis rentrée en Martinique. Je n'avais pas envie de rentrer soit pour la famille, soit pour une quête identitaire. Ça, j'y crois pas. J'ai eu vraiment envie de rentrer parce que déjà, j'avais envie de revenir à une situation de confort. Je dis, je mérite le confort et j'en ai marre d'être une errante entre Montpellier, Paris, etc. Et qu'en plus, mon travail ne soit pas reconnu parce qu'à ce moment-là, j'étais complètement invisibilisée sur la scène contemporaine chorégraphique française. C'est pour ça que je suis super contente d'ailleurs d'être ici, avoir été invitée par la Table de Poitiers parce que je pense que c'est une belle reconnaissance de 18 ans de travail et de pas avoir lâché, d'avoir résisté, mais aussi du coup de m'être autorisée à revenir dans le confort, à revenir dans mes cellules. Je sentais que j'avais besoin d'une eau chaude, de me baigner dans la mer des Caraïbes, de prendre soin de moi. Comme je travaillais en plus sur le toucher cellulaire, sur une technique somatique qui s'appelle le body-mind centering, qui elle aussi a réussi à me défaire de beaucoup de mes techniques qui finalement m'engonçaient dans un corps assez rigide. Le body-mind, du fait qu'on revienne à la cellule, qu'on revienne au liquide, voilà, qu'on est dans le salivaire, l'invagination de son tube digestif, qu'on puisse refaire la liaison entre bouche et anus mais liée à sa colonne vertébrale ou à la mémoire de sa colonne. Et tout ça me permettait du coup de me défaire de beaucoup de pratiques un peu rigides qui ont finalement fini par rigidifier mon corps ou me mettre dans une forme de systémique, systématique gestuelle. Pour finalement essayer de retrouver un peu une danse, ma danse des origines et pas le buto, c'est-à-dire vraiment ma propre danse, une danse authentique, une danse qui m'appartient, et que peut-être cette danse, c'est tout simplement prendre un micro, hurler à poil sur des hauts talons, et que c'est peut-être ça ma danse, ou m'autoriser justement à prendre des fluos et faire de la calligraphie avec ces fluos, de m'amuser avec, de les utiliser... de manière très simple et ludique et en même temps que ça m'en puissance et que je m'autorise du coup à être belle sur le plateau, à m'aimer. Moi, je pense que tout ça, c'est aussi une quête vers l'amour de soi. Retrouver de la dignité, de la confiance et aussi un amour de soi-même. La métropole, elle n'est pas très tendre avec ça pour les femmes racisées et en plus artistes, de retrouver l'amour de soi. C'est dur. C'est très difficile. Et je pense que ce retour en Martinique, c'était une manière déjà de faire reconnaître mon travail, d'avoir des sous pour travailler et pas bosser gratuitement, d'être aidée financièrement, de pouvoir avoir une assise au niveau professionnel et de pouvoir, du coup, moi, une fois que j'ai cette assise professionnelle, pouvoir aider d'autres femmes, qui du coup ça me touche et je me sens utile, et du coup ça me nourrit aussi à mon tour, etc., etc. Et après du coup de pouvoir repartir, mais cette fois-ci de la Martinique, de revoyager, mais à partir d'une base qui est plus solide, plus accueillante, plus solidaire aussi peut-être, moins froide, une terre moins froide, plus chaude, ce dont j'avais vraiment besoin. Alors que je ne suis pas née en Martinique, hein, je suis née en Nouvelle-Calédonie. Après, avec mes parents, on a vécu au Congo, Brazzaville, à Pointe-Noire et au Sénégal. Donc, je suis arrivée en Martinique, c'était pour ma sixième. Mes deux parents sont martiniquais, mais voilà, ma mère a des origines aussi russes, etc. Donc le milieu, il est complexe. Mais la Martinique a été vraiment pour moi une terre d'accueil, quelque part. Mais voilà, moi, j'aimerais plus parler de post-identité ou, tu vois, d'identité queer au sens hybride du terme, bizarre, quelque chose de bizarre plutôt que de... Même si je le dis hein, ouvertement, je suis martiniquaise, etc. Après, je ne sais pas si mon travail, il est vraiment que lié à la Martinique. Moi, je pense qu'il est... Il est quand même pluriel, il ouvre sur plein de champs, parce qu'il y a tellement de batailles aussi à mener que du coup, j'ai besoin de plein de femmes référentes. Pour l'instant, là, je suis sur un nouveau projet avec deux autres femmes artistes noires, où justement, on tâche de récolter des femmes inspirantes noires. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, mes femmes inspirantes, elles ne sont pas noires. Elles sont soit juives, soit allemandes, soit nord-américaines. Et ça aussi, c'est étrange, quelque part.
Quand vous dites « Amabrocha, je suis une sorcière », pour moi, ça répond comme si c'est la réponse à qui je suis. C'est-à-dire que je ne suis pas que martiniquaise, je ne suis pas que femme, je ne suis pas que personne racisée, je ne suis pas que une personne qui a été formée dans les bons codes, dans les bons circuits français métropolitains, je ne suis pas que une interprète de Buto ou une praticienne de Body Mind Centering, je ne suis pas que... C'est-à-dire que c'est une manière de dire... Ben je suis tout ça à la fois, en fait, d'affirmer que je suis une bruja, c'est que je suis toutes les personnes que vous voulez pas accepter dans vos cases bien étriquées. Moi, je suis, je les explose et je m'en libère, je m'en affranchis et je dis sorcière.
Complètement. C'est complètement ça. Bruja serait comme un terme générique pour effectivement regrouper toute cette complexité et en même temps, comme vous dites, exploser les cadres. Exploser les cadres, les limites, les frontières. Je pense que souvent, j'ai beaucoup questionné les limites de l'autorité, les limites du cadre, aussi pour avoir beaucoup travaillé en extérieur, in situ, dans des sites spécifiques et pas forcément justement sur un plateau de théâtre. Aussi, interroger les limites de l'autorité. Ça, je pense que c'est quelque chose, ben justement, dans le rapport maître-élève, dans le rapport de transmission, comment finalement, en danse, on peut souvent se retrouver, je parle en tant que danseur-interprète, on a du mal à s'affranchir à un moment donné de ce que notre chorégraphe ou notre prof va nous enseigner. Et que finalement, on reste des petits modèles ou des modèles réduits de notre prof, de notre chorégraphe, mais que finalement, soi-même, on s'autorise peu à devenir soi-même artiste et à avoir ses propres ressources, sa propre recette, suivre ses intuitions, les écouter. Et se saisir de ça, de ce pouvoir-là, des savoirs qu'on a, des savoirs des fois intuitifs, pas forcément transmis, mais qu'après, on peut retrouver la source. Et ça, de toute façon, ça ne s'apprend pas. Enfin, je veux dire, si à un moment donné, moi, je ne m'autorise pas aussi à désobéir, eh ben, je pense que je passe à côté de quelque chose. Et je pense que ma vie, je pense que j'ai pendant ces 18 ans de quête, quelque part, de reconnaissance dans le paysage chorégraphique français, j'ai fait 18 ans de désobéissance, où j'étais là où on ne m'attendait pas, etc. Et où j'ai fait confiance, voilà, à mon intuition pour créer la bruja avec une autre bruja qui est d'ailleurs Christophe Aleb, qui m'a aidée en tant que regard extérieur. Et ça aussi, c'était une bonne intuition. Une manière aussi de faire la paix avec moi-même, parce que je pense que dans ce milieu-là, on est souvent aussi très dépendant, malheureusement, de la programmation, de plaire quelque part au programmateur, etc. Et là, je pense que c'était... À partir du moment où je ne suis plus dans de la représentation stricto sensu, mais dans un rituel, du coup, je fais la bruja d'abord pour moi, avant de le faire pour être programmer par la suite. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que je me respecte, je prends soin de moi alors que je suis en train de performer. Et je ne fais pas que performer pour l'autre. Et je suis en train de dire quelque chose pour moi. Voilà, donc en tant que sorcière, ce ne sont pas les autres qui vont me brûler, mais c'est moi qui m'empuissance avec les fluos, avec le cadre lumineux, etc. Et ça, je pense que c'est super important que nous, en tant que femmes, encore plus femmes racisées, qu'on arrive à s'empuissancer à travers nos métiers et que du coup, on lâche le rapport des séductions et qu'on est vraiment dans ce qu'on est en train de faire et après qu'ils m'aiment me suivent, quoi.
Mais justement, il y a un passage dans le spectacle où vous dites « prendre soin de soi, prendre soin des autres, c'est une manière de prendre soin de l'histoire ». Et est-ce que vous pensez que l'histoire est malade et de quoi elle serait malade? Et comment ensuite participer à son soin?
L'histoire française, elle est malade de sa colonisation. Elle est malade de pas réussir à digérer toute cette période coloniale et de pas dire pardon. La question de la réparation, elle est énorme, elle est hyper importante. Elle a déjà démarré au Canada avec les autochtones, indigènes, etc. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir dire pardon, demander pardon et commencer vraiment la réparation à plein de niveaux et de couches différentes. Donc oui, je pense que l'histoire française, en tout cas, elle est encore malade de ça. Elle n'a pas guéri encore vraiment. Et ils sont très peu les courageux qui vont dire nous continuons à fonctionner comme des colons, etc. Ils sont très peu, ces gens-là, à poser justement un regard critique sur cette société néocoloniale et à dire non, ça suffit. Il faut vraiment que nous aussi, on démarre notre process décolonial, enfin que tout le monde s'y mette et qu'on le fasse ensemble. Et ça, c'est un gros chantier. Et je pense que dans la danse contemporaine française a tout intérêt à s'emparer aussi de ça. Quand je dis s'emparer, je ne parle pas de réappropriation culturelle, attention, mais à s'emparer, c'est-à-dire à justement festoyer des chorégraphes racisés, courageux, ou des metteurs en scène, metteuses en scène, qui justement parlent de ce sujet, parlent de l'afroféminisme, parlent de la décolonisation du corps ou de son imaginaire, parlent du rituel, parlent du magico-religieux, parlent de tout cet héritage plantocratique, voilà, ex-colonial, et après s'en affranchissent avec le témoignage, du coup, avec le public comme témoin de ça. C'est là où l'artiste a besoin du public pour que le public en soit témoin et que le public, du coup, approuve et qui est du coup, une réparation collective et pas juste individuelle. Et c'est là que le théâtre, enfin, les lieux comme le théâtre, jouent un rôle énorme dans la question des réparations, justement.
Et ça pousse à mettre son énergie au bon endroit, comme le dirait Princess Nokia.
Exactement. Oui, don't you fuck with my energy, effectivement. ne baisse pas avec mon énergie, dans le sens où j'ai besoin de préserver mon énergie pour la mettre au bon endroit et qu'elle soit pas inutilement, que je m'épuise pas pour rien, quoi, mais que je garde cette bonne énergie pour pouvoir faire des choses constructives pour mon pays, pour mon territoire, pour moi-même, pour ma famille, pour ma communauté. Enfin, ça, c'est hyper important, comme ça évite les dilutions énergétiques.
La chasse reste ouverte. L'ennemi reste antérieur, dompté par le rouleau compresseur d'une modernité normative. L'intuition, indomptable, elle, prend de nouveaux visages. N'oublions pas trop de l'écouter. Et merci de votre écoute.